Évangile de Matthieu, chapitre 16. Je bâtirai mon église, mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Voilà, là, Dieu va bâtir ce temple. Et il s'assiera, enfin plutôt c'est le germe, c'est le Seigneur lui-même qui va le faire. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera la gloire. Quelle expression ! Il portera la gloire. Celui qui a glorifié Dieu, celui qui est dans le ciel maintenant, glorifié, assis à la droite de Dieu, eh bien il viendra, reviendra sur la terre pour porter la gloire. Chacun le verra et il aura la gloire avec lui et personne ne pourra ouvrir la bouche. Ce sera l'homme glorieux qui sera là. Il portera la gloire, il s'assiera et dominera sur son trône. C'est le règne millénaire, le millénium que nous trouvons dans l'Apocalypse. Il portera la gloire, il s'assiera, dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. Et Hébreu nous dit même plus, il sera, au chapitre 4, il sera le grand souverain sacrificateur. La seule expression que nous trouvons dans la parole qui soit aussi complète. Le grand souverain sacrificateur. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et le conseil de paix sera entre deux, c'est-à-dire entre le peuple et lui. Un conseil de paix. Est-ce que nous vivons plutôt aujourd'hui ? Parce que nous l'avons. Dieu nous donne sa paix, bien entendu. Est-ce que nous vivons ce conseil de paix entre nous, entre les frères, entre les sœurs, pour avoir vraiment une vie de foi à sa gloire, à la gloire du beau nom du Seigneur Jésus ? Ce peuple sera à la gloire à ce moment-là du Seigneur Jésus. Mais nous aujourd'hui, toujours je fais le parallèle avec nous, est-ce que nous vivons cela déjà aujourd'hui, puisque nous connaissons le Seigneur Jésus ? Nous l'avons reçu, nous n'attendons pas qu'il vienne de nouveau, si, pour nous chercher, bien sûr, mais nous le connaissons déjà comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Et il veut que nous soyons dans ce conseil de paix. Voilà, il y aura le couronnement donc de ce roi en Israël. Et puis il y a les chapitres 7 et 8, j'ai dit que c'était une deuxième partie, où il est question de réalité pour le peuple, de réalité pour tous les jours, parce qu'il nous en faut des réalités pour tous les jours. Là c'est bien, on voit la prophétie, on a annoncé le Seigneur, etc. Puis il y a des réalités pour tous les jours, je vais en dire juste quelques-unes. Le peuple est invité à jeûner, et bien verset 3 du chapitre 7, « Pleurerai-je au cinquième mois, en me séparant comme j'ai fait voici tant d'années, pleurerai-je ?» Oui, le peuple, il doit pleurer. Parfois, il nous faut pleurer. Verset 5. Quand vous avez jeûné et que vous vous êtes lamenté au cinquième, au septième mois, et cela pendant 70 ans, ils se sont lamentés. Évidemment, ils étaient en déportation. Est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné ? Est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné ? Et ça, c'est extrêmement pratique pour nous aujourd'hui. Ça, c'est le peuple, bien sûr. Pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous avez réellement jeûné, pleuré, etc. pour moi, dit l'Éternel. Pour moi, vous avez fait cela. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nos affections doivent être pour le Seigneur Jésus. Si nous avons des choses dans la vie, le monde qui s'introduit dans nos vies de différentes manières, nous le savons, le nombre d'idoles qui existent aujourd'hui dans le monde, qui sont beaucoup plus pernicieuses, ces idoles, que ne l'étaient les idoles peut-être de pierre ou de je ne sais pas quoi, de l'époque ou de bois, eh bien, faisons attention. Si nous avons jeûné de tout cela, c'est-à-dire si nous le laissons de côté, pour avoir nos affections, comme le disait Pierre-Henri Hinault il y a deux jours, nos affections vraiment pour le Seigneur Jésus, qu'il ait la première place dans nos cœurs. Parfois, on entend dire toute la place. Ce n'est pas possible. Il nous faut bien des affections pour notre compagnon, pour notre compagne, pour nos enfants, bien entendu. Heureusement, il nous faut aimer nos frères et nos sœurs. Mais est-ce que notre premier amour, est-ce qu'il est vraiment pour le Seigneur Jésus ? Vous savez, il y avait une église en Apocalypse, Éphèse, qui avait abandonné ce premier amour. C'était l'église, carrément, qui l'avait abandonné. Elle pourrait l'abandonner encore aujourd'hui. C'est extrêmement triste. Mais nous, est-ce que nous l'abandonnerions ? Est-ce que nous ne pouvons pas laisser de côté tout ce qui ne sert à rien, qui est inutile, voire pernicieux, pour davantage aimer notre Sauveur. Alors, un peu plus loin, toujours dans ce chapitre, encore deux mots, verset 9. Très pratique. Prononcez des jugements de vérité, verset 9, chapitre 7. Hein. prononcer des jugements de vérité, user de bonté et de miséricorde l'un envers l'autre. Vous voyez, des choses très pratiques dans ce livre aussi. Hein. Voilà, et ça c'est pour nous aujourd'hui, bien entendu, autant que pour le peuple. Prononcer des jugements de vérité, c'est-à-dire dites la vérité, dites les choses directement, telles qu'elles doivent être, sans détour. Parfois on utilise, et c'est très à la mode aujourd'hui, des méthodes détournées pour venir à un sujet, etc., pour amener le sujet. Bon, on connaît ça, ceux qui ont travaillé de bien des manières. Non, il nous faut parler la vérité, être droit devant nos frères et devant nos sœurs, dire les choses telles qu'elles sont, telles que nous les pensons réellement. Et le Seigneur Jésus ne disait rien d'autre que ce qu'il pensait réellement et qui était la vérité. Donc imitons-le, bien entendu, prononcer des jugements de vérité, user de bonté et de miséricorde l'un envers l'autre. Et puis, il revient au peuple, là, au verset 11. Ils refusèrent d'être attentifs et opposèrent une épaule revêche, apesantirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Est-ce que nous ferions cela aujourd'hui? Apesantir nos oreilles pour ne pas entendre? Dire, oh, ce qu'il raconte là, moi j'ai déjà entendu 10 fois, 20 fois, 100 fois. Non, c'est extrêmement pernicieux que de parler comme ça. C'est l'ennemi de nos âmes qui nous dit cela. Eh bien, c'est ce peuple, malheureusement, il en était là. Il a pesantissé ses oreilles. Et comme nous le dit l'Épître, et ce peuple, il a encore un voile aujourd'hui, comme nous le savons. Hein. Donc ils opposèrent une épaule revêche, apesantirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Et rendirent leur cœur dur comme un diamant, comme un diamant. Il n'y a rien de plus dur qu'un diamant, rien ne peut rayer le diamant, que lui-même, c'est tout. Et bien voilà, ce peuple, le cœur peut devenir comme cela, dur comme un diamant. Vous savez, le pharaon, par exemple, Dieu avait même endurci son cœur. Et il faut faire attention à cela, parce que si on refuse une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, de venir au Seigneur, Dieu peut endurcir notre cœur au point qu'on ne peut plus être sauvé. Cela est déjà arrivé, c'est extrêmement triste et lamentable. On peut dire que ça nous paraît étonnant, parce qu'on peut toujours, il y a toujours une ressource pour Dieu, bien sûr. Mais Dieu sait ce qu'il en est de l'âme. Dieu sait ce qu'il en est de toute âme, si vraiment elle est disposée ou non à venir au Seigneur, ou si elle a refusé définitivement dans son cœur. Et alors, à ce moment-là, le cœur est endurci. Et il est même dit dans Thessaloniciens qu'il y aura une énergie d'erreur qui sera envoyée. Et au chapitre 8, alors au chapitre 8, c'est la grâce qui guérit. Et là, il y a ces choses tristes, mais au chapitre 8, c'est la grâce qui guérit. Tout est grâce de la part de Dieu. Je suis jaloux, verset 2, pour Sion d'une grande jalousie. Je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion. J'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville de vérité. Il y aura encore des vieillards, voilà la grâce. Il y aura encore des vieillards et des femmes, verset 4, âgées, assises dans les rues de Jérusalem, chacun son bâton à sa main à cause du nombre de leurs jours, et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles, etc., etc. Et verset 8 à la fin, ils seront mon peuple. Voilà la grâce qui est là. Ils seront mon peuple. Et moi, je serai leur Dieu. Ensuite, 2 ou 3 expressions, puis je laisse la place à Jean-Philippe, concernant, simplement au chapitre 7 encore, j'ai oublié, il y a quelques versets qui sont intéressants. C'est les versets 18 à 23, vous les relirez. On arrête les jeunes à un moment, le peuple arrêtera les jeunes. Judas sera dans l'allégresse et la joie, verset 19. Il y aura d'heureuses assemblées et les jeunes seront transformés en fête. Le peuple sera heureux avec Dieu, bien entendu. Ensuite, au chapitre 9, juste une expression qui nous parle du roi, du Seigneur Jésus. Verset 9 du chapitre 9, c'est très facile à s'en souvenir. 9:9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Le Seigneur Jésus, le roi, il vient à toi. Il est juste, et ayant le salut, humble et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Alors c'est tout à fait ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, nous le savons bien. Hein. Voilà donc le Seigneur Jésus, un des versets qui annonce le Seigneur Jésus, là. Et puis encore un autre verset au chapitre 10. Alors, au chapitre 10, Christ est présenté comme le berger. Et nous trouvons une expression qui nous parle du Seigneur Jésus, c'est le verset 4 du chapitre 10. De lui est la pierre angulaire. Nous savons qu'il y a beaucoup de versets dans la parole qui nous parlent de cette pierre angulaire du Seigneur Jésus. Psaume 118 et ailleurs, dans le Nouveau Testament aussi. De lui, verset 4, est la pierre angulaire. De lui, le clou. De lui, le clou. Comparé à un clou. Et nous trouvons cela dans Ésaïe au chapitre 22, cette même expression, Ésaïe 22, cette expression du clou. Un clou, c'est quelque chose de solide, qui est là pour, sur lequel on peut porter, suspendre une lourde charge, bien entendu. Verset 22 du chapitre 22 d'Ésaïe. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, du Seigneur, là aussi, c'est le Seigneur, bien sûr. Il ouvrira, personne ne fermera. Il fermera, personne n'ouvrira. Et je le fixerai comme un clou dans un lieu sûr, dit l'Éternel. Je le fixerai comme un clou dans un lieu sûr. N'est-il pas déjà fixé comme un clou dans un lieu sûr, c'est-à-dire dans le ciel même? Y a-t-il un lieu plus sûr que le ciel même? À la droite de Dieu, quatre fois répété dans l'Épître aux Hébreux, il est fixé là comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un trône de gloire pour la maison de son père, et on suspendra sur lui toute la gloire de la maison de son père. Quelle expression magnifique! Il y a des expressions absolument admirables dans la parole de Dieu. Encore un verset, c'est dans Esdras, je parlais tout à l'heure d'Esdras. Dans Esdras, nous trouvons ce même clou. Esdras au chapitre 9 et au verset 8. Comme il paraît aujourd'hui et maintenant, pour un moment, nous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel. Nous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel, notre Dieu, pour nous laisser des réchappés et pour nous donner un clou dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie. Là, le peuple donc revenait, reconstruisait le temple, etc. Eh bien, ils avaient besoin de ce clou, de cet ancrage solide sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour redonner un peu de vie. C'est un peuple qui était mort. Il était complètement éloigné de l'Éternel. Et l'Éternel avait compassion d'eux et revenait, et voulait revenir vers lui. Et le Seigneur Jésus était déjà présenté comme un clou. Et au chapitre 11 de Zacharie, le dernier verset, puis je m'arrête. Chapitre 7. Je me mis à paître le troupeau de la tuerie. Et je me mis à paître le troupeau. Verset 8 et verset 10. Et je pris mon bâton beauté et je le brisai. Là, c'est le Seigneur Jésus. Dans sa gloire, il a dû être brisé. Il a dû être abaissé pour venir sur cette terre pour nous sauver. Il s'est abaissé lui-même jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Je pris mon bâton beauté. C'est lui-même qui le fait. Personne n'a brisé le Seigneur. C'est lui-même qui s'est abaissé et qui s'est anéanti lui-même, comme nous le lisons dans Philippiens. Et puis un peu plus loin, une expression que nous trouvons bien sûr dans le Nouveau Testament. « Et ils pesèrent mon salaire, au verset 12 au milieu, ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. » Tous les détails nous sont donnés dans l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus. Concernant ce que Judas a fait donc là, pour 30 pièces d'argent, eh bien cela a été consigné déjà dans la parole. Ce n'est pas arrivé comme cela fortuitement. C'était consigné dans la parole de Dieu. Alors, au chapitre 12, s'il y a encore un verset que je lis, le seul que je lis, parce que je ne lis pas le reste, c'est Jean-Philippe qui va nous en parler. Au chapitre 12 et au verset 10 du chapitre 12, « Ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. C'est ce qu'ils procéderont, ce qu'ils verront, ces enfants d'Israël, à l'époque. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 13, toujours, « Je ne suis pas prophète », au verset 5, « Je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. Et on lui dira, quelles sont ses blessures à tes mains ? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. » Chaque fois que nous lisons ce verset, nous pleurons. « Celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. » Voilà, donc le Seigneur Jésus qui est mentionné partout dans ce livre de Zacharie, et c'est d'une très très grande beauté.
Nous continuons donc ce livre avec un regard particulier sur Jérusalem.